C'est dans Genèse 26 que nous allons, et comme je le disais, c'est pas un passage qu'on en tout cas, moi, je ne l'ai pas souvent considéré. Je disais avant la prière ce matin qu'en 20 ans de prédication, je ne pense pas avoir voué un message entier à ce chapitre. Et même, je me demande si j'ai déjà voué un message entier au protagoniste principal, ben, c'est Dieu, là, mais au personnage humain principal, c'est-à-dire Isaac. Donc, on n'est pas vraiment en terrain nouveau, c'est un des patriarches, c'est pas comme si on ne connaît pas Isaac, là. C'est pas un personnage sombre et inconnu, mais peut-être moins connu que ces deux autres auxquels ils sont tout le temps associés, ça dit Abraham, Isaac et Jacob, on connaît bien Jacob. On connaît bien, oui, Jacob et Abraham, mais peut-être un peu moins Isaac, on va en prendre de lui aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on lise en commençant, puis ensuite je vais prier pour qu'on considère ensemble. C'est le thème du mois de bénir Dieu. On est créé pour bénir Dieu. Bénir le Dieu de paix. On va lire les versets 12 jusqu'à 22. Pour se donner un peu l'idée de ce qui se passe. Après ça, on va les considérer vraiment plus en détail à travers le message. Mais j'aimerais qu'on ait un peu une idée de ce qui est devant nous ce matin. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, c'est-à-dire 1%, 100 fois plus. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de mini-bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous » et il donna au puits le nom d'Essec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel il chercha aussi querelle. On chercha aussi querelle, pardon, et il appela Sitna et il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. On va arrêter pour l'instant, même si on va lire plus loin dans le message. On te remercie, Seigneur, de ce qu'on peut s'arrêter quelques instants. Avec ta parole, toute écriture est inspirée de Dieu. Tu as des choses à nous dire, à nous communiquer. Pas juste à notre tête, mais à notre cœur ce matin, toi le Dieu de paix, qui a envoyé Jésus le prince de paix, toi qui es notre paix, on veut considérer ces choses pour en être non seulement enseigné, mais transformé. C'est toi l'enseignant, c'est toi l'agent actif qui fait la différence avec ces choses qu'on considère. Donc on veut s'ouvrir complètement à ce que tu as pour nous aujourd'hui. On te le demande au nom de Jésus. Amen. C'est un beau passage. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut voir là-dedans. Et j'aime les temps de prière parce que ce matin même, quand on prie, des fois, le Seigneur montre des choses à des gens. Quand Sébastien parlait d'une symbolique des puits. En tout cas, c'est spécial. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut voir dans la parole de Dieu quand on s'arrête. Puis comme je vous l'ai dit, c'est pas en tout cas un passage que j'ai très, très souvent considéré avec vous en Église. Mais ici, il y a une grande bénédiction de considérer Isaac. Qui, on peut dire, a voué sa vie à bénir le Dieu de paix. Isaac est un homme paisible et il a béni le Dieu de paix. Isaac a béni Dieu, ça ne le dit pas mot pour mot de dire qu'il a béni l'Éternel, ça dit que l'Éternel l'a béni, mais lui, même au-delà des mots, de par son appartenance à Dieu et de par sa confiance en la présence de Dieu avec lui, il a béni le Dieu de paix. Il avait un style de vie d'adoration paisible. C'est ce que je vois dans la vie d'Isaac. C'est peut-être pour ça qu'il est moins connu que les autres. Il était moins peut-être extravagant, comme son frère Jacob, ou peut-être moins aussi grandiose et action d'éclat comme son père Abraham. Mais il en reste que c'est un des trois patriarches lorsque Jésus, par exemple, parle de Abraham, Isaac et Jacob. Il fait partie du lot. Et Isaac reconnaissait le fait d'être béni par la présence de Dieu dans sa vie, et ce, au-delà des conflits. C'est ce qu'on va voir avec le message. Mais avant, j'aimerais vous rappeler que le plus grand et le meilleur Isaac, c'est Jésus. Jésus qui est notre paix, c'est ce que ça dit dans Éphésiens 2. Et qui en appelle, lorsqu'on a Jésus dans notre vie, il en appelle à une vie de paix, qui d'ailleurs fait partie du fruit de l'esprit, la paix. Et là-dessus, un passage que je vais vous lire, qu'on va mettre en parallèle à travers le message. Je vous lis au complet, vous pouvez y aller si vous voulez, c'est dans Jacques 3, où est-ce qu'il y a un contraste entre deux esprits vraiment qui sont totalement différents. Et donc, j'aimerais prendre le temps de vous le lire parce que on va faire un parallèle à travers le message. C'est dans Jacques au chapitre 3, où est-ce qu'il contraste un esprit de querelle et un esprit paisible. Ça dit au verset 13 de Jacques 3, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ceux qui recherchent la paix, c'est comme ça que ça termine le passage dans Jacques, c'est ce qu'on va considérer avec trois recherches ici dans notre texte pour arriver à bénir le Dieu de paix. D'abord, dans les versets 12 à 14, on a recherché la source de paix. Isaac était dans le pays. Au verset 12, il a semé et il recueillit cette année-là le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et s'en allant en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portèrent-ils envie? Je crois que Isaac a appris à connaître son Dieu, à se confier en lui, non seulement à travers, on va en parler dans un instant, mais le grand événement lorsque son père l'offrait sur l'autel, voir comment déjà on voyait son caractère paisible qui était là, Isaac. Mais aussi, avec dans les versets précédents, on le voit qu'il a menti par crainte de l'homme. Et là, ici, Dieu est en train d'y apprendre à le craindre lui, puis à se confier en lui pour sa protection. Parce que je crois qu'il a appris de ce qui est arrivé avant. Puis là, ici, on voit que Dieu le bénit. Et c'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, dont la paix. Et donc, Dieu est la source de paix. Et OK, oui, on peut faire un jeu de mots, là, parce qu'on parle de puits, puis Dieu est la source, là. OK, on va prendre un jeu de mots, là. Dieu est la source d'eau vive. Mais ces versets ici qu'on vient de lire nous rappellent que tout commence avec Dieu. Dieu est la source de toute chose, la source de vie, de vérité. Dieu est aussi la source de paix. Et ici, le contexte est important parce que c'est une période de famine. OK, on voit au verset 1, là, il y a eu une famine dans le pays. OK, donc, où est-ce qu'il... Puis c'est Dieu qui l'a dirigé, là. C'est Dieu qui dit, va dans ce pays-là. Donc, il n'était pas là de sa propre initiative, il obéissait à Dieu, puis Dieu l'a amené là, dans un contexte de famine. Et en dépit de ça, en dépit de la famine, de ce contexte difficile, Isaac recueille une semence pour 100. Donc ça, c'est un rendement, là. Au centuple, là, c'est une bonne année de récolte. Okay? C'est clairement un miracle de la bénédiction de Dieu sur son enfant. En dépit des circonstances contraires et contraignantes, je dirais, parce que, OK, il y avait une famine, mais il y avait aussi des gens qui n'étaient pas contents. C'est pour ça qu'on n'est pas surpris de voir que ça l'a produit de l'envie et de la jalousie. On voit ça à la fin du verset 14. Hein, les Philistins lui portèrent envie. Ils n'étaient pas contents. Ils ne sont pas dit, ah, on est content que tu sois béni de l'Éternel, que tu sois comme ça. Et savez-vous quoi? C'est pas nouveau, c'est encore toujours bien vrai que les bénédictions de Dieu, qu'elles soient temporelles ou spirituelles, peuvent être des sources de conflits. Pensez-vous que si vous avez le fruit de l'esprit, la joie du Seigneur, la paix, alors que ça ne devrait pas être le cas, que les gens vont dire « Je suis tellement content que tu aies le fruit de l'esprit dans ta vie puis que tu sois un enfant de Dieu qui porte du fruit. Béni sois-tu. » Ça peut arriver, puis j'espère que ça l'arrive, mais aussi on peut s'attendre, il faut être réaliste, à ce que ça produise une réaction contraire. De la jalousie, puis de l'animosité, puis de la querelle. Et, parce que là, ils ont fait le parallèle entre la situation physique ici, mais ça peut être aussi vrai dans le domaine spirituel. Et là, je vous donne des exemples. OK, dans le domaine physique, quelqu'un qui a un héritage, qui sortirait avec une somme d'argent élevée d'un coup, pensez-vous que tout le monde va dire « Ah, c'est le fun, ça, qu'ils vont vouloir profiter » ou tout ça. Ça peut produire des querelles. Ou quelqu'un qui a une bonne job, qui a une famille qui va bien, puis qui rencontre quelqu'un qui a une famille qui va pas bien, ou qui a pas une bonne job. Quelqu'un qui a un contentement dans une situation difficile. Ces choses-là, bien qu'elles soient bonnes et bénéfiques dans nos vies, peuvent produire de l'envie et de la jalousie, des querelles. Et donc, avec ces choses, non seulement on doit s'y attendre, il faut être réaliste. Hein, on ne vit pas dans un monde de licorne où il n'y a jamais de conflit, puis tout le monde est beau, tout le monde est fin. Fait que non seulement on doit s'y attendre, mais on doit les embrasser. Ce n'est pas des choses qu'on devrait fuir. « Oh non, je ne veux pas avoir de chicane, je veux que tout le monde soit content avec moi, puis tout ça. » Non, on doit, au lieu de les fuir ou de les combattre, on doit les accueillir, les embrasser comme étant une occasion de se connecter avec Dieu, notre source de paix. Parce que c'est Dieu qui les permet afin qu'on l'expérimente, lui, notre paix, au milieu des conflits. C'est là que c'est encore plus doux. C'est le contraste qui fait que c'est fort. C'est là où il y a de la querelle que la paix est douce, n'est-ce pas? Quand tout va bien et que la paix, bon, c'est comme pour acquis. Mais quand c'est au milieu des conflits, oh, wow! Là, Dieu se fait connaître. Là, le surnaturel est bien présent. Je donne un exemple. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais puis là, c'est enregistré sur Internet. Je ne veux pas trop mal parler, mais dans un milieu comme un pénitentiaire, un milieu carcéral, c'est un milieu de tension. Puis des fois, les gens vont avoir des idées. Ah oui, c'est sûr, les prisonniers se chicanent ensemble, les prisonniers puis les gardes se chicanent. Oui, OK, il y a tout ça, c'est vrai. Mais des fois aussi, dans le personnel, que ce soit des gardes, des non-gardes, c'est un lieu de tension parce que c'est un lieu quand même de stress. Tu sais, il y a un danger qui est là, qui est présent, il arrive des événements, puis il y a des choses. Donc, c'est pas rare de se heurter des fois à des situations où est-ce que les gens sont pas toujours très, très fins. OK? C'est pas un petit monde de licorne, je vous le dis. OK? Il y a des problèmes d'attitude et tout ça. Puis maintenant, il y a quelqu'un qui me dit d'une façon un peu brusque et raide, « Hey, faut que tu respectes ton mandat, puis tout ça. » Puis là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'aurais pu dire, « Hey, quelle occasion de fuir ou quelle occasion de... » C'est donc bien plate, cette affaire-là. OK? Parce que ça m'a heurté. Mais au contraire, j'ai vu une occasion de bâtir des ponts. Non seulement avec lui, mais avec ses collègues. « Merci que tu me dises ça, ça m'aide à comprendre. » Le fait que tu me le dis, puis là, j'ai pas dit, tu le dis pas de la bonne manière, là, parce que, tu sais, des fois, quand tu fais ça, tu fais juste jeter de l'huile sur le feu. Il dit, ah, merci de me le dire. Puis j'ai été voir une autre personne de la situation de laquelle il parlait. Puis ça l'a aidé, justement, à saisir l'occasion pour que ces situations qui répètent soit conflictuelles ou tout ça, fassent en sorte qu'au contraire, ça nous aide à communiquer l'idée, hey, on est ensemble là-dedans. Puis c'est quelque chose que j'essaye de faire. C'est-à-dire, on n'est pas les uns contre les autres, on est les uns avec les autres, même si on a des rôles différents puis des tâches différentes au sein de l'organisme. Ça ne veut pas dire d'être porte molle puis de tout laisser passer puis de ne pas avoir de colonne vertébrale. Non, ça veut dire d'avoir une fermeté, mais avec une sagesse qui est évidente et qui est sainte. C'est-à-dire qui n'est pas de ce monde, qui est d'en haut, qui n'est pas d'en bas. Petit parallèle avec ce qu'on a vu dans Jacques, n'est-ce pas? Et ça, c'est changer le mal en bien par l'esprit et l'esprit qui vit en nous. Et c'est ça l'idée avec un enfant de Dieu qui est un enfant de paix dans un monde de querelles. Et ça, c'est exactement comme ça dit ici, la sagesse d'en haut qui est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. C'est tellement beau ce passage-là parce que ça nous donne l'esprit qui doit animer les enfants de Dieu, en contraste avec l'esprit du monde. Donc ça, c'est d'abord le point de départ, le plus important, rechercher la source de paix. Dieu, tu es ma source. Les circonstances que tu permets, c'est mes occasions de me connecter à toi puis de te laisser te révéler à travers ces conflits, ces querelles. OK? Premier point. Tout le monde est encore avec moi? Rechercher la source de paix. Ensuite, rechercher le moyen de la paix. On continue dans le texte au verset 15, on peut lire « Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. » Ils sont donc même pas fins. Et Abimélec, le chef de la gang des Philistins, dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup trop puissant, beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Puis là, ça continue l'histoire des puits par après, on ne va pas lire pour tout de suite, mais j'aimerais juste vous rappeler ici que Isaac, c'est pas parce qu'il ne voulait pas le conflit puis il fuyait, c'est qu'il n'a pas recherché la querelle. Je crois que l'esprit qui animait Isaac, et ce qu'on retrouve dans Romains 12, 19, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Je crois que c'est ce qui est derrière ici. Tu sais, il aurait pu dire, « Ah, ben voyons, c'était mon père qui les a creusés, puis c'est quoi? » Il a laissé ça dans les mains du Seigneur. OK? C'est ce que je vois ici dans le texte. Donc, le moyen de la paix, c'est d'avoir cet esprit, cette attitude non confrontationnelle qu'on voit chez Isaac, qui n'a pas contesté ou lutté, mais qui a simplement laissé la place, il est parti. Puis a creusé d'autres puits, en faisant confiance à Dieu. OK? Et n'est-ce pas ce qu'on peut voir aussi dans notre vie? Des fois, est-ce qu'une querelle, ça peut être juste Dieu qui nous redirige à aller creuser un puits ailleurs. Ça ici, c'est pas pour toi ce que j'ai. J'ai quelque chose pour toi ailleurs. Puis lui faire confiance. OK, Dieu, je vais te faire confiance. C'est arrivé à deux reprises. Il a creusé des puits, puis des vlimeux, des tannants, des malcommodes. Il venait encore tout le temps les remplir. La même gang de jaloux qui venait remplir les puits qu'il creusait. Okay? Puis les deux fois, il a donné des noms. Puis dans la Bible, c'est important quand quelqu'un donne des noms, que ce soit une personne ou même ici comme à un lieu ou ici au puits. Le premier des puits qui a été bouché, donc que ça n'a pas bien été, il a appelé Essek, on voit ça au verset 20, ça veut dire dispute. Le deuxième au verset 21, encore un puits qui a été bouché par les querelleurs, il a appelé Sitma, ça veut dire ennemi, adversaire ou opposition. Ok, donc on est pas mal dans l'idée, là, la dispute de l'opposition. Donc, on voit par ça que Isaac ne vivait pas dans le déni. Il ne faisait pas semblant qu'il n'y avait pas de problème. Il reconnaît, regarde, ça c'est la place où est-ce qu'il y a de la chicane. Ça c'est la place des ennemis, des adversaires, ceux qui s'opposent. Ok, fait qu'il ne fait pas semblant que ça n'existe pas. Il reconnaît la réalité, mais il ne se l'approprie pas comme si c'était ce qui définissait sa vie, si c'était son identité. Non, il reconnaît les choses, mais comme on a vu il y a quelques mois, il a une identité réelle, il reconnaît l'état réel des choses, comme mettons avec Moïse qui se trouvait dans le poche, qui n'était pas capable de parler, puis de se présenter devant Pharaon, ok? Mais il n'est pas resté là. Il est allé à la vérité, son identité vraie. C'est-à-dire, Isaac n'est pas un querelleur. Isaac est un homme de paix, est un homme béni, fais-moi confiance. Depuis, je peux t'en trouver un autre. Puis c'est effectivement ce qui est arrivé, parce qu'il a creusé un troisième puits, puis là, il n'y avait pas de querelle. On va y revenir dans un instant. Mais je veux juste rappeler ça, hein. On a parlé de ça pas mal, c'est dans quel mois? Je pense que c'est dans le mois d'avril. Le fait de passer de la dure réalité, là, tu sais, l'identité réelle. Je me sens pas, j'ai peur, puis j'ai pas le goût, OK? De pas faire vivre dans le déni comme si tout était beau. Non, non, c'est ça que je vis, c'est là que je suis rendu. Mais pas prendre ça comme si c'était notre identité, puis toute la fin de notre vie, puis qu'il n'y avait plus d'autre chose qui allait arriver. Non, non. De partir de là, le réel, puis d'aller dans la vérité. Ce que Dieu dit de moi, ce que Dieu dit sur ma situation, comment lui définit les choses. Ça, c'est la vérité. C'est plus fort, c'est plus loin. Et c'est ça qui arrivait avec notre cher Isaac. Et il était saint dans ce sens-là. Il était à part. Il n'y en avait pas d'autre comme lui. Il raisonnait Dieu dans ce milieu où est-ce que Dieu l'avait placé. Isaac ne s'est pas laissé détourner ou distraire par des problèmes tout à fait légitimes. Là. On parle ici des puits d'eau. Ce n'est pas un petit à côté peu important. C'est une source de vie. Là. S'il n'y a pas de puits, il meurt toute la gang. Il n'était pas tout seul, mais on l'a vu. Il était prospère. Il avait toute une gang avec lui, là, des troupeaux et des serviteurs. Mais il connaissait l'ultime solution, celui qui est la source de vie, puis celui qui rémunère ceux qui le cherchent. Et à travers ça, on voit Isaac qui cherche son Dieu, plus que la résolution des problèmes. Encore, je vous ramène à une illustration tirée du milieu carcéral. Une fois, en discutant avec quelqu'un de la direction du pénitencier cette fois-ci, en parlant d'une situation avec justement quelqu'un qui avait été conflictuel, qui n'avait pas une bonne attitude, la personne m'a dit « Moi, je ne me serais pas laissé faire. » Puis je comprends l'idée. Puis je comprends, puis il dit « Ben regarde, on n'a pas toute la même personnalité, puis tout ça. » Puis je comprends l'idée. Puis c'est vrai qu'il y a un temps, des fois, vous dire « Hey, t'as plus, tu devrais pas me parler comme ça, tu sais, manquer de respect, puis tout. » Mais c'était pas exactement ça, la situation. Mais je vois là-dedans, encore là, le contraste. Est-ce que quand une situation, je pense, je veux pas me laisser faire, puis je suis animé par un esprit de dispute, je vais le dire comme il faut, un zèle amer, puis un esprit de dispute, ou je vois cette occasion-là pour avoir cette sagesse d'en haut, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est pas nécessairement bien vu dans le monde. Ça, c'est vu comme une pâte molle, quelqu'un qui se laisse manger la laine sur le dos. Puis c'est vrai que ça peut être un piège dans lequel on tombe par crainte des hommes de se laisser manger la laine sur le dos. Fait que là, il y a une différence à voir. Pas chercher la querelle ou à envenimer la querelle puis à être animé par un zèle amer puis un esprit de dispute. C'est pas l'opposé d'être une pâte molle. Rechercher la paix, c'est d'être actif, d'être proactif en amenant celui qui est la paix, en amenant vraiment la vraie solution. Parce que dire « je ne vais pas me laisser faire » et à chicaner, que ça fait plus de problèmes. Ça n'amène pas Dieu. Et donc, c'est ce qu'on voit avec ce qui arrive avec le troisième puits, qui a donné encore un autre nom. C'est quoi le nom? Rehoboth. On est content, c'est tout ce que ça veut dire, qu'on passe au prochain point. Non, là, au bas, puis même quand on a la traduction, parce qu'il dit « l'Éternel m'a mis au large », c'est quoi ça veut dire, ça? « M'a mis au large », quoi, t'es en bateau, puis... C'est une expression, on appelle ça « idiomatique », c'est une expression qui exprime la liberté. L'Éternel m'a libéré, m'a donné la liberté. Je suis plus dans une situation de conflit où j'étais pogné, Dieu m'a libéré. C'est ça l'idée, il a renommé la place, c'est ce puits-là, Rehoboth, puis... Dieu l'avait mis au large dans le sens que là, il n'y avait plus de retenue. Là. Il était capable de pouvoir avancer puis prospérer puis avec ce que Dieu lui avait donné. Okay? Donc, c'est clairement une expression qui communique la liberté, pas juste ici, mais à d'autres endroits là, dans la Bible. Il met mes pieds au large, on voit ça dans les psaumes, on voit ça. C'est une expression idiomatique assez courante en hébreu. Et de là, j'aimerais voir, parce que là, on parle du moyen de la paix, qui est avoir l'esprit qui est pas un zèle amer, mais un esprit de dispute, mais plutôt celui de la sagesse d'en haut. Ça, c'est le moyen de la paix. À la lumière de tout ce qu'on a considéré, je vais te poser cette question. C'est une question rhétorique. Est-ce que tu peux dire ce matin que tu as la liberté de la restauration, de la réconciliation, de la vérité et de la grâce dans tes relations? Ou est-ce que tu es pogné avec un esprit de dispute, un zèle amer? L'Éternel nous met au large en nous amenant le bon esprit, en se laissant, en se soumettant à l'esprit qui vient en nous, si vous êtes un enfant de Dieu, la liberté va être là. Et pour ça, je vous dis, là, c'est pas l'idée d'être passif et de se laisser manger la laine sur le dos, ou d'être un tapis. C'est d'être proactif, mais pour la paix, pour le bien, pour la vérité. Et ça, il y a une liberté là-dedans. Et en fait, non seulement nous, on peut vivre cette liberté, puis quand on la vit, on est capable ensuite de la communiquer puis répandre cette liberté de la restauration, la réconciliation, la vérité, la grâce dans les relations. Spécialement celles qui sont difficiles. Facile d'être en paix avec quelqu'un qui est notre meilleur ami, mais quand c'est quelqu'un qui c'est pas facile. Des fois, avec des non-sauvés, des collègues de travail, des gens de la famille, avez-vous brûlé vos ponts? Vous avez encore la liberté de réconcilier, d'amener la restauration divine. Bonne question à se poser ce matin. Et si on a ici l'attitude d'Isaac, qui non seulement recherchait celui qui est la source de paix, mais le moyen de la paix, c'est-à-dire l'esprit, l'attitude de la sagesse d'en haut, ben, ça va amener du bon fruit. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Puis l'opposé de ça, c'est quoi? Ben, c'est le zèle amer, l'esprit de dispute dans les versets qui précèdent. Puis savez-vous quoi? Ça, là, ces choses-là, on pourrait dire que c'est ce qui qualifie des relations toxiques. C'est quoi une relation toxique? C'est quand c'est amer, c'est une dispute, c'est pas agréable, ça griche en dedans. Ça râle, comme ils disent les Acadiens, puis dans le bas du fleuve, en Gaspésie. Ça griche, ça râle, puis savez-vous quoi? Ce n'est pas compatible avec la vie d'un enfant de Dieu, ni avec l'esprit qui l'habite. Et ça, ce n'est pas quelque chose de secondaire que je vous dis là. C'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'on va le voir dans le prochain point, mais ça manifeste le Dieu de paix, le Dieu qui habite en nous. Qu'est-ce que je communique? Parce que dans Jacques, là, c'est l'esprit du monde puis l'esprit de Dieu qui sont mis en contraste. Puis qu'est-ce qui m'anime? L'esprit du monde ou l'esprit de Dieu? C'est pas secondaire, c'est vraiment la manifestation de Dieu au milieu des relations. C'est comme ça que Dieu veut se faire connaître à travers ses enfants. Et que j'aimerais donc que je soupire après des milieux chrétiens, des relations chrétiennes empreintes de cette attitude, de cet esprit, comme c'est décrit dans Jacques, au chapitre 3, versets 17 et 18. Et ça, mes amis, c'est pas sans conséquence. Ça m'amène au troisième point, la troisième recherche, non seulement la source de paix, rechercher aussi le moyen de la paix, mais rechercher le fruit de la paix. Et on a ça dans les versets 23 à 25 dans notre texte. Donc là, Isaac, ça nous dit ici, « Il remonta de là à Beersheba. » On va voir pourquoi ça s'appelle comme ça plus tard. « L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. » C'était à mode dans ce temps-là. Non, comme j'ai dit, c'est quelque chose de vital. Ici, on voit que par son obéissance à cet esprit qui est dans Jacques 3, la sagesse d'en haut, mais aussi à laisser à Dieu la vengeance et la rétribution, OK, une attitude non violente et sans vengeance, Isaac se confie de façon inébranlable à son Dieu. Et de cette manière, Isaac devient le reflet du Dieu de paix. De la nature même de Dieu. Dieu, il dit « Je suis le Dieu de paix ». Ça fait partie de comment Dieu est. Alors on va dire « Wow, c'est un beau compliment ça, Isaac. Tu reflètes le Dieu de paix. » Et bien plus cette attitude que Isaac a en portant le fruit de la paix comme ça, c'est non seulement ce qu'il a mis au large, là, comme on l'a vu là, avec Rehoboth, là, c'est ce qui lui a donné une liberté, mais ça l'a cimenté sa relation avec Dieu. D'où le fait ici qu'il bâtit un hôtel, fait que tu vois qu'il grandit. Puis là, je vais amener quelque chose d'important. Vous savez, dans Genèse 22, Isaac n'était pas comme ici celui qui décidait, qui prenait les décisions. Il était celui qui les subissait. Genèse 22, c'est lorsque son père Abraham dit, puis là, c'est Dieu qui avait donné l'ordre à Abraham, et il dit à son fils Isaac, on va aller sur la montagne, puis on va offrir un sacrifice. Le fine print, c'était, c'est toi le sacrifice. C'était quand même pas rien, là. Isaac est un jeune homme. Son père était vieux. Isaac aurait pu facilement résister. Il aurait pu dire, pas question. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là. Mais on voit déjà sa foi, Isaac, à se laisser faire. Il a été paisible. OK? Fait que déjà, la semence de ce que Dieu était en train de faire était là. Dieu était déjà à l'œuvre dans la vie d'Isaac. Mais ici, Dieu a amené les choses encore plus loin parce que là, c'était lui. Là, on dit en anglais, il y avait du skin in the game. Il en avait aussi dans Genèse 22, là, parce que c'était lui. Mais encore ici, c'était comme toute la gang ici qui était avec lui dépendait de ce qu'il allait faire. Là. Puis il dit, hey, c'est bien beau de confier en Dieu, mais hey, le puits là, duquel on dépend, là, il vient d'être bouché. Là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va se confier en Dieu. Ah ouais, c'est des belles paroles, ça. Comprenez-vous qu'il y avait quelque chose de très concret et de très vital, là, c'était pas juste une théorie, puis « Ah, je vais me confier en Dieu », puis... Non, non, c'était comme « OK, là, on n'a pas de moyen de subsistance dans ce lieu. On va faire confiance à Dieu. » Voyez-vous que Ici, on le voit que c'est confié en Dieu, puis ça l'a porté du fruit, parce que Dieu a béni, puis savez-vous quoi? Dieu, tout le long, il a pourvu, il n'a jamais manqué d'eau. Il n'a pas pris les choses en main, il les a laissées dans celle de Dieu, et Dieu s'est occupé de tout. Puis là, on avance dans l'histoire, et ça devient vraiment personnel pour Isaac, ici, Dieu qui se révèle à lui comme il s'est révélé à Abraham dans Genèse 22. Puis on le voit ici qui porte le fruit de la paix avec sa réponse à une intervention directe de Dieu dans sa vie. Là, c'était pas par l'intermédiaire de papa. Là, c'était directement lui et Dieu. Et ça, c'est majeur parce que c'est ça aussi la maturité spirituelle. Le juste vivra par sa foi. Et n'est-ce pas ce qu'on veut pour nos enfants, spécialement quand ils sont rendus plus vieux? Puis, lâchez pas de placer votre confiance, votre espérance en Dieu. Dieu peut s'occuper de nos enfants. Dieu est capable de leur parler. Puis Dieu, il sait qu'ils ont besoin d'apprendre dans leur propre peau. C'est quand même drôle. J'ai lu ça dans un livre cette semaine. Ça m'a quand même interpellé. On est quand même des drôles de créatures, les chrétiens. Des fois, on va parler là, qu'il faut se confier en Dieu, puis on voudrait que nos enfants n'aient pas les problèmes du monde, qu'ils n'aient pas des conflits intérieurs, puis que tout aille bien, alors que c'est de même que nous-mêmes, on a connu Dieu. Puis on voudrait que nos enfants en soient épargnés. Ben non, eux autres aussi ont besoin de ça, parce que c'est comme ça que pour eux autres aussi, ça va devenir vrai puis concret. Fait qu'on n'ait pas peur. Là, je parle des enfants, ça peut être des gens proches de nous qui ne sont pas encore sauvés, mais que Dieu nous appelle à faire confiance. Et je pense qu'il y a une différence là-dedans de maturité. Tu sais, là, dans 1 Jean chapitre 2, quand ça parle des petits-enfants, des jeunes gens, puis des pères, on voit une gradation de maturité dans les enfants de Dieu. Je pense que c'est ça. Tu sais, au début, t'es sauvé, t'es tout content, mais tu sais, t'as la base. Hey, merci Seigneur, mes péchés sont pardonnés. Puis ça, oups, t'apprends le combat de la foi, tu deviens un jeune homme, jeune femme dans la foi. Puis ça, tu deviens un père, quelqu'un de mature qui connaît son Dieu, puis qui a confiance dans le fait que OK, Dieu, j'ai appris à te connaître. J'ai vu que tu es tout le temps fidèle. Tu es toujours digne de confiance. Donc, il y a cette gradation comme ça, cette croissance dans la grâce et dans la connaissance de Dieu qui va toujours porter du bon fruit, le fruit de la paix. Et c'est spécial de voir dans le verset 24 comment Dieu a confirmé l'alliance qu'il avait faite avec son père. Là, il dit, c'est avec toi. C'est entre moi et toi, à cette heure, Isaac. C'est personnel. Puis pour ça aussi que ça l'a produit une adoration personnelle. Là, c'est lui qui a fait son autel. C'est lui qui a adoré l'Éternel. Et notez qu'il adore, qu'il invoque son Dieu, comme on a vu dans un des éléments de la prière, le premier, si je ne me trompe pas. Ça ne pourrait pas être plus personnel. Ça devient vraiment pour Isaac quelque chose de fort et de très établi dans sa vie, cette relation avec Dieu. Il a trouvé en Dieu son identité, sa sécurité, son appartenance, son acceptation. Ces choses ont été un point tournant dans la vie d'Isaac. Ça a commencé avec des querelles. Pour une question de survie. Et vous, tout ce que Dieu est en train de faire là-dedans, il est parti des éléments concrets du quotidien, des choses vitales, puis il a amené un établissement de la relation pour qu'elle devienne inébranlable. Qu'en est-il de toi ce matin? Est-ce que c'est rendu personnel à ce point avec Dieu? Il est ta sécurité. Dieu est ton identité. Dieu t'a accepté ton acceptation. Tu es dans le bien-aimé. Tu ne peux pas être ravi de la main de Dieu. Est-ce que tu peux le dire en esprit et en vérité? C'est ton refuge, ta sécurité, ta joie, ton repos. Et savez-vous quoi? Les problèmes que Dieu permet dans ta vie, les puits remplis là, de poussière, c'est rien de moins que l'invitation de Dieu à t'approprier ces choses, t'approprier ton acceptation, ton identité, ton appartenance. Toutes ces choses-là qu'on a en Jésus, c'est par le moyen de nos problèmes que Dieu nous les fait vivre, nous fait jouir de ces choses qu'on a déjà en lui, mais qu'on a besoin de s'approprier par la foi. Je veux conclure avec les versets 26 à 32 qu'on va lire, puis ça va nous servir de conclusion. Abimélec, il revient à la chair. Lui, il n'était pas souhaité là, de revenir, mais il revient de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picolet, ça c'est un drôle, je ne sais pas si Picolet, là, c'est un drôle de nom, mais chef de son armée, Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? » Je lui ai dit, il ne vivait pas dans le déni de la réalité, il dit, « Quoi vous faites là? Voulez-vous encore vous chicaner? » Il se demandait ce qu'il faisait là. Excusez, j'ai perdu ma ligne. Verset 28, ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » Ah, le Dieu de paix hein, est avec toi. Il voyait bien ça. « C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que tu ne nous as point, que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous avons laissé partir en paix. » Bon, on va dire qu'il était un peu généreux, là, parce que seulement du bien, remplir un puits de poussière, pas sûr que c'est vraiment bien, là, mais bon. C'est vrai qu'ils l'ont laissé partir en paix, par contre. « Tu es maintenant béni de l'Éternel, verset 30, Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent, et se levèrent de bon matin, et ils se lia l'un à l'autre avec un serment. Isaac les laissa partir, et le quitta en paix. » Deux fois, on parle de paix là-dedans, c'est spécial. « Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Il appela Sheba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba, jusqu'à ce jour, puis même encore aujourd'hui, hein, Beersheba, le puits du serment, ça existe encore, la ville de Beersheba, et le puits du serment, on va un peu tirer le son de ça pour conclure. Je crois qu'on voit, une belle illustration ici du Dieu qui transforme le mal en bien, où d'Isaac, comme ça dit dans Romains 12, 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Puis, ça nous rappelle que Dieu bénit ceux qui le bénissent comme ça par la foi, en lui faisant confiance dans leur relation. Je crois, pour paraphraser les mots de Psaume 133, verset 3, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dieu a béni avec un nouveau puits qui est devenu le nom Beersheba, c'est-à-dire puits du serment, parce qu'il y avait eu un serment de paix. C'est drôle que ceux qui cherchaient querelle sont venus le voir pour avoir la paix. Il y a tellement de leçons là-dedans. Tu sais, quand on laisse Dieu agir, on peut être surpris de ce qu'il peut faire. Essaye pas de te venger puis t'en occuper, laisse Dieu agir. Puis t'as vu, c'est ses ennemis qui sont lui, eux-mêmes venus pour essayer de rechercher la paix parce qu'ils ont bien vu que Dieu est avec lui. C'est le point, c'est le facteur décidant là-dedans. Là. Hein, on voit que Dieu est avec toi. Autrement dit, on ne peut pas se battre contre toi, tu es tellement plus fort parce que Dieu est avec toi. Que ça soit dit sur nos vies, que la présence de Dieu soit manifeste, que ça puisse laisser cette impression sur ceux qui ne le connaissent pas encore. Et on voit qu'il a recherché celui qui est la source de paix par le moyen de la paix, et ça l'a produit le fruit de la paix. Et tout l'ensemble de cette recherche de paix chez Isaac, et pour nous tous ici qui recherchons cette paix, ben c'est plus que juste quelque chose, c'est quelqu'un. Jésus, le prince de paix. Et ça, il aime à se révéler, Jésus, au sein même de l'adversité et des conflits. Comme j'ai dit, ça fait partie de manifester la beauté de sa paix, c'est quand c'est au milieu des querelles et des conflits. C'est là qu'elle est douce, la paix, c'est là qu'elle est bonne, c'est là qu'elle est manifeste. Et donc, qu'on n'ait pas peur des conflits, qu'on n'ait pas peur de l'adversité, parce que c'est le moyen de découvrir, de rencontrer celui qui est le prince de paix. Donc, je vous pose la question, que recherches-tu, ou je devrais dire, qui recherches-tu en ce moment, ou spécialement, dans tes conflits? Si ta réponse est quoi que ce soit, ou qui que ce soit d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, le prince de paix, bien, je vous dis, là, garantie, si vous cherchez quoi que ce soit d'autre, vous allez être déçu, trompé, frustré, puis vous allez rester sur votre faim. Parce que seulement Jésus satisfait et donne la vraie paix, le vrai. Puis il ne met pas dehors ceux qui viennent à lui. Puis Jésus a dit à des gens qui étaient querelleurs puis qui se chicanaient pour des questions religieuses, « Venez à moi. » Vous êtes fatigués, vous êtes chargés. C'est fatigant de se quereller. Ça demande de l'énergie. Puis qu'est-ce qu'on trouve quand on vient à Jésus? On trouve le repos. Parce que son joug est doux, son fardeau est léger. C'est lui qui vous invite ce matin, si vous ne le connaissez pas, vous allez trouver la paix. Puis, c'est la paix avec Dieu, pas juste avec les hommes. la paix avec Dieu par le sang de la croix. Et pour les enfants de Dieu ici, il donne la paix qui surpasse toute intelligence, puis qui garde nos cœurs et nos pensées en lui, en Jésus-Christ, notre Seigneur, le chef de notre vie. Donc, tout le monde ici, je vous encourage, qu'on vienne à lui, se soumettre à lui. Dieu, je ne veux pas me quereller pour me quereller, je ne veux pas être animé d'un zèle amer, d'un esprit de dispute. Mais Seigneur, tu es ma sagesse, et tu es la sagesse d'en haut. Jésus est la sagesse d'en haut. Pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. On vient à toi, Seigneur, ce matin, te prendre, toi, pas parce qu'on t'a pas déjà, mais Seigneur, on veut ce matin venir se placer sur toi, se soumettre à toi par la foi, dans les querelles qu'on peut vivre, dans les conflits, que ce soit des fois relationnels ou des fois intérieurs, tu es notre paix. Tu es le prince de paix. Tu amènes une paix qui surpasse toute intelligence, puis qui garde, qui protège, qui est en poste de garde pour nos cœurs puis nos pensées. Merci pour ça, Seigneur. Merci que les conflits, les choses que tu permets, ce sont les moyens même par lesquels tu veux te faire connaître comme le Dieu de paix. Merci pour ça, Seigneur. Merci pour la vie d'Isaac, qui n'est pas parfaite. Il a menti, il a manigancé, mais tu lui as appris des choses là-dedans et il a appris de ces choses. Il a appris à se confier en toi. Merci pour ces leçons ce matin. Merci pour ta parole vivante, riche, proche, bienfaisante. Qu'elle porte du fruit ce matin, à ta gloire, au nom de Jésus. Amen.